les grandes entreprises sont en train de se plateformiser. Si on regarde SNCF, ce qu'elle est en train de faire, de changer, d'évoluer, de ne plus être exclusivement une infrastructure de transport, mais une plateforme qui produit des données. Vous produisez des données à chaque fois que vous voyagez dans un TGV, vous vous connectez par exemple, imaginez d'ici quelques temps, à la 4G ou au Wi-Fi du TGV. Et après, SNCF peut revendre ces données-là ou alors les mettre dans une énorme API, donc dans une énorme plateforme et interface de création de app, donc d'applications. Imaginez une évolution de ce type-là, fait en sorte, en gros, de brouiller complètement les frontières entre le travailleur employé par l'entreprise plateforme et le travailleur qui est son consommateur, c'est-à-dire son usager.
Comme un jeudi sur deux, le rendez-vous du médiateur des antennes de Radio France, Bruno Denès. Soft Power, la culture numérique est-elle culturelle? Aujourd'hui avec Frédéric Martel, producteur du 19h sur France Culture le dimanche. Ils seront donc dans l'émission à partir de 13h23, donc un peu avant la fin. Avant cela, dans l'actualité des idées aujourd'hui, vous l'aurez peut-être compris, le numérique aussi. Ce que le numérique fait à mon boulot et à ma vie. Comment a-t-il fait irruption et disruption dans nos modes d'organisation et dans nos manières de penser le travail? Sommes-nous aussi en train de nous plateformiser, pour reprendre les mots du sociologue des réseaux sociaux Antonio Casilli, auteur des Liaisons numériques paru au Seuil en 2010. C'est la question que nous allons poser à notre invité, le sociologue Patrice Flichy, professeur émérite à l'université de Marne-la-Vallée, directeur de la revue Réseau, qui analyse les effets de la mutation numérique. Auteur déjà de l'imaginaire d'Internet à la découverte en 2001 et de Le Sacre de l'amateur en 2010, son nouveau livre prolonge ses réflexions dans le champ du travail, publié au Seuil. Il s'intitule « Les nouvelles frontières du travail à l'ère numérique », une enquête documentée sur notre relation au travail et les nouvelles logiques qui en découlent, un travail ouvert dont il nous donne les itinéraires, mais aussi un retour sur les origines de ces évolutions bien antérieures, selon l'auteur, à la révolution numérique. Bonjour Patrice Flichy.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Alors, ces ordonnances de réforme de la loi travail qui viennent juste d'être ratifiées à l'Assemblée, est-ce que leurs auteurs ont pensé, à vos yeux, cette réforme dans ce cadre élargi que vous allez définir et redéfinir avec nous, ou en sont-ils restés aux vieilles définitions du travail ?
Très largement, puisqu'il s'agit essentiellement d'encadrer la négociation sociale entre les entreprises et les salariés. Donc ces ordonnances, leur rôle principal, c'est de définir ce qui relève de la loi, ce qui relève de négociations de branche ou ce qui relève de négociations au sein de l'entreprise. Disons, le numérique y est peu présent, il y est présent essentiellement, me semble-t-il, à travers la question du télétravail. Donc il affirme un droit au télétravail, donc en principe n'importe quel travailleur peut travailler chez lui et son employeur peut le refuser, mais s'il le refuse, il doit motiver son refus.
C'est donc une réforme qui s'attache à modifier, on va dire en gros, les règles du contrat de travail et non à réformer le travail réel, à définir ou à redéfinir l'activité. Ce sera peut-être la deuxième étape qui sera passée sous présidence Macron, parce qu'on va en parler avec vous. On se rend compte qu'aujourd'hui, la figure de l'artiste, la figure du hacker, cette idée du do-it-yourself qui a été reprise à l'industrie du disque, est peut-être en train de commencer à traverser celle du travailleur à l'ère numérique. Et Emmanuel Macron, il sera peut-être sensible d'une manière ou d'une autre.
Alors, j'espère, pour le moment, attendons effectivement de mieux connaître les réformes qui se préparent sur la formation professionnelle, sur le chômage. Les réformes envisagées sur le chômage, effectivement, envisage de peut-être donner les mêmes droits aux non-salariés et aux salariés. Mais effectivement, le fait que le travail soit beaucoup plus large que l'entreprise est quelque chose qui est ancien et qui finalement, je crois, démarre à l'ère industrielle. Avant l'ère industrielle, il n'y a pas de différence entre le lieu de travail et le domicile. Et une des ruptures de l'ère industrielle, c'est la création de l'usine. Il y a un intérieur de l'entreprise et un extérieur. Et bien, dans cet extérieur de l'entreprise, se sont développées d'autres activités de travail. On a parlé du travail à côté, le livre de Florence Weber. Et puis, on a parler du do-it-yourself. Le do-it-yourself est quelque chose qui démarre à la fin du 19e siècle. L'idée donc de mener d'autres activités qui sont identiques au travail, dans la mesure où il s'agit de se fixer un objectif, de voir comment s'y engager, et de voir comment l'atteindre en dépit des difficultés, des imprévus. Je crois que c'est comme ça qu'on peut définir plus largement le travail.
Pour reprendre votre image, est-ce que cette extériorité là a tendance à disparaître, telle que vous nous l'avez décrite avec l'usine, l'extériorité du travail, ça tend à disparaître pour finalement qu'il n'y ait plus de frontières entre les deux mondes et que nous soyons soit des entrepreneurs pour une entreprise, soit des entrepreneurs de nous-mêmes.
Ça s'efface en partie. On peut prendre un exemple très simple qui est celui de la conduite automobile. Vous pouvez conduire un ami à l'aéroport. C'est une relation sociale, un don finalement fait à cet ami. Vous pouvez aussi utiliser le covoiturage et à ce moment-là, on partage les frais. Et puis, vous pouvez rentrer dans un système marchand avec les plateformes dont on parlait tout à l'heure, les VTC, Uber et les autres. Et puis, vous pouvez aussi utiliser le moyen de transport classique qui était celui du taxi. Ce qui a changé, c'est que finalement, les chauffeurs de taxi avaient une compétence de connaissance de la topographie urbaine. Et aujourd'hui, cette compétence est transférée à une machine, en l'occurrence le GPS. Ce qui fait que dans les quatre cas que j'évoquais, on fait le même travail, aidé par un outil numérique.
Dans cet essai, Patrice Flichy, Les nouvelles frontières du travail à l'ère numérique, vous vous intéressez moins à l'ubérisation du travail dans le sens de ces secteurs, de ces métiers qui sont aujourd'hui bouleversés par ces grandes mutations technologiques, par cette révolution numérique, qu'au changement que cela implique dans nos manières aussi de travailler et de penser le travail, de nous organiser. La première grande mutation que vous constatez, c'est le décloisonnement de fait entre travail et loisirs qui ne s'opposent plus, en tout cas pas comme on les opposait avant. La frontière entre les deux est devenue beaucoup plus poreuse et c'est pas forcément un mal si on vous lit et si on ne réduit pas le travail à la production de valeur. Pourquoi appelez-vous à repenser le travail sous la forme de l'engagement et non sous celle de la production ou de la productivité ?
Alors, je crois que c'est tout à fait important parce que face aux mutations technologiques, on peut avoir tendance à dire le travail se restreint où le travail est tellement mécanisé qu'il n'y a plus aucun intérêt dans le travail et il faut tout investir sur l'extérieur, les loisirs. Alors, c'est un débat qui apparaît dans les années 60 avec George Friedman, le grand fondateur de la sociologie du travail. À la fin de sa vie, Friedman considère qu'on ne peut rien faire contre le travail en miettes, sa fameuse expression, et que finalement, il faut investir dans les loisirs.
Oui, il dit que le travail est aliénant, donc voilà, il faut aller trouver sa source de respiration, s'oxygéner ailleurs.
Voilà. Eh bien, c'est un petit peu, effectivement, cette séparation que je récupère. Parce que il ne faut pas abandonner le travail, il faut transformer le travail pour qu'il soit moins aliénant. Et puis, avec le numérique, on assiste à une sorte de continuum entre ce que j'appelle le travail ouvert, qui peut se faire à l'extérieur de l'entreprise, et le travail réalisé dans l'entreprise.
En quoi n'est-on pas aliéné maintenant en permanence, alors 24 heures sur 24 avec ce nouveau système ? Qu'est-ce qui fait qu'on sort de cette notion d'aliénation du travail ?
Alors, on sort de cette aliénation parce que les travailleurs, de cette façon, peuvent obtenir une autonomie beaucoup plus large dans leur travail. Quand on voit les enquêtes récentes réalisées sur le travail, je pense par exemple à l'enquête de la CFDT qui a été publiée il y a quelques mois, la première revendication, une des premières revendications, c'est l'idée d'une autonomie. Les trois quarts des travailleurs disent « on veut être plus autonome ». On est dans des organisations du travail aujourd'hui qui sont extrêmement hiérarchiques, hein, et probablement plus hiérarchiques que dans d'autres grands pays occidentaux. Donc il y a une demande finalement de pouvoir gérer son activité de façon plus autonome. Autre résultat de cette enquête qui était quand même assez étonnant, pour les deux tiers des salariés, la hiérarchie ne sert à rien. Hein. On serait mieux sans hiérarchie.
Seulement les deux tiers. Bon.
Alors, disons, il y en a 15% qui seraient vraiment ennuyés sans hiérarchie. Il y en a environ 25% qui travailleraient mieux sans hiérarchie. Et les deux tiers, finalement, s'en fichent. Donc, vous voyez, il y a une organisation du travail qui est fortement remise en cause. Et effectivement, les outils du numérique... qui ont finalement deux faces. Je crois que c'est important de ne jamais les oublier. C'est-à-dire que les outils du numérique sont à la fois des outils d'autonomie et des outils de contrôle. Et donc c'est sur ces deux faces du numérique qu'il faut constamment réfléchir, me semble-t-il.
Oui, et ce à quoi vous réfléchissez, Patrice Flichy, dans cet ouvrage, c'est pas cette idée que le travail aujourd'hui, de nos jours, doit passer à nos nuits, c'est-à-dire que le travail salarié soit 100% chronophage, et vous ne plaidez pas pour cette extension du domaine du travail, mais vous nous racontez que du travail d'à côté qui a été théorisé par Florence Weber au travail ouvert que vous définissez, c'est tout ce qui se joue en ce moment à la marge de l'entreprise ou du salariat traditionnel qui est intéressant. C'est ce qui repose sur un nouvel écosystème et des ressources nouvelles portées par l'ère numérique. En gros, en réalisant, on s'auto-réalise. Et c'est ça pour vous la nouveauté qu'on retrouve dans cette idée du do-it-yourself, du faites-le vous-même ou faites-le par vous-même, hein, vous plaidez quelque part pour un régime généralisé ou tout du moins élargi de cette notion. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'on peut gagner dans ces pratiques étendues ? Qu'est-ce qu'on peut trouver ?
Alors, il y a là une utopie qui est très ancienne, hein, qu'on trouve chez les socialistes utopiques du 19e siècle, hein, avec William Morris, et qu'on retrouve, disons, dans ces 50 dernières années, aussi bien chez les hippies que chez les hackers, que chez les punks. Dans toutes ces utopies, il y a l'idée qu'on ne peut plus séparer dans l'activité le travail et le hors-travail. On peut s'y investir totalement. Chez les hippies, c'est intéressant parce que finalement, on oublie parfois, hein, que le monde hippie était un monde très favorable à la technologie. C'est pas seulement le retour à la nature, c'est une fascination pour le micro-ordinateur. C'est un des premiers espaces où on s'est intéressé au micro-ordinateur.
Oui, vous l'écrivez, les utopies hippies, hacker, maker et punk balisent une nouvelle forme d'engagement dans le travail qui rompt avec le travail salarié et propose des formes d'autoproduction alternative. Il y a cette tradition de l'autofabrication comme dispositif aussi de construction de soi et de son cadre de vie. Hein.
Absolument. Absolument, parce que effectivement, une des choses que remplit cible le monde Internet aujourd'hui, c'est qu'on peut mettre en visibilité ses réalisations. Et on peut les mettre dans un niveau très large. Si on prend le travail d'un côté de Florence Weber, c'était un écosystème finalement très local et fermé. Hein. On utilisait les compétences qu'on avait, qu'on n'utilisait pas à l'usine ou qu'on ne pouvait plus utiliser à l'usine. Et ces compétences étaient reconnues par ses proches, sa famille, ses amis. Aujourd'hui, on peut d'une part aller chercher, avec le numérique, aller chercher des compétences ailleurs. Hein. Un de mes interviewés, il utilise cette belle expression en disant « YouTube, c'est le premier lieu de formation ». Donc, sur YouTube, on peut tout apprendre. Et on peut donc acquérir des compétences nouvelles. Et puis, on peut, en utilisant les plateformes qu'on évoquait tout à l'heure, proposer son activité des consommateurs ou à des utilisateurs, quand on est dans une formule de don, infiniment plus large que l'était le travailleur d'à côté.
C'est une forme d'artisanat du 21e siècle qui est en train de se produire aussi aujourd'hui, et ça vous rapproche d'une certaine manière de la pensée du sociologue américain Richard Sennett, prof aujourd'hui à la London School of Economy, qui a théorisé cette question de la refonte du lien social autour de la notion de coopération, notamment dans un de ses célèbres ouvrages, Ce que c'est la main, la culture de l'artisanat. Écoutez.
La chose que j'ai essayé de montrer, c'est comment les techniques de faire un objet sont aussi les manières dans lesquelles des gens apprennent d'être coopératifs avec ceux qui sont différents. C'est-à-dire comment connaître un mot qui est une situation qui est complexe. Quel est le comportement? Quels sont les mots? Quels sont les gestes qui sont nécessaires à travailler avec des gens qui sont différents? Et j'ai essayé de briser l'idée que la coopération, c'est quelque chose parmi ensemble. C'est trop simple. Le monde moderne est compliqué et la coopération aussi doit être compliquée. Et je prétends que ça exige un savoir-faire. C'est pas quelque chose qui vient spontanément. C'est appris. Pour un musulman et un chrétien, vivre dans le même quartier, ça exige une sorte de sophistication, de savoir-faire. C'est pas une question de bonne volonté seulement.
De la coopération de Richard Sennett au travail ouvert, le vôtre, Patrice Flichy, que vous résumez en 5 caractéristiques: travail complet, plaisir de faire, collaboration auto-organisée, modèle de création libre, articulation avec le marché. Mais est-ce que ce travail ouvert, il est pour vous complémentaire ou appelé à se substituer au travail salarié à l'avenir?
Il est complémentaire. Je crois que ça serait une erreur d'imaginer que le travail salarié va disparaître. Hein. Alors, on trouve chez certains auteurs américains des prévisions nous disant qu'en 2030, la moitié des travailleurs seront en dehors du salariat. Je ne pense pas. Je pense que c'est plutôt dans les marges, les frontières du travail que les changements sont en train de se mettre en place et qu'ils auront probablement des conséquences à l'intérieur de l'entreprise. Mais je crois que ce serait une erreur profonde d'imaginer que nous sommes face à la fin du salariat.
Et c'est un mouvement qui place l'individu au centre. L'individu prend le pas sur le collectif, ou est-ce que le groupe est mis en valeur dans cette ère numérique aussi?
Alors, l'individu coopère de multiples façons, hein. Et je crois que dans ce monde qui est un petit peu la référence, hein, de l'activité numérique, le monde des hackers, hein, qui créent des logiciels libres, eh bien, on organise des dispositifs de coopération qui sont extrêmement puissants, très structurés, mettent en place des formes démocratiques particulières, avec l'élection des dirigeants, la mise en place de systèmes d'accords multiples, hein, et en même temps la mise en place de systèmes de contrôle. Hein. Je vous donne un bon exemple de ça, c'est Wikipédia. Hein. Pourquoi Wikipédia réussit? Parce que Wikipédia est un monde où tout est ouvert, c'est-à-dire chaque changement que j'ai fait sur un article est archivé, hein, et donc on peut en débattre, et ça veut dire que tout le monde surveille, hein, le texte que j'ai écrit.
Mais vous présentez ces mutations comme plutôt émancipatrices pour le travailleur. Est-ce qu'elles ne sont pas aussi créatrices d'inégalités?
Alors, bien sûr, selon les formes de travail, la situation n'est pas du tout la même. Je crois que ces nouvelles formes de travail ouvertes sont extrêmement intéressantes pour tous les métiers, hein, intellectuel et créatif. Hein. Le monde informatique, le monde des créateurs, des designers, le web design, etc. À l'autre bout de l'échiquier social, il y a ce qu'on appelle parfois les travailleurs du clic, hein, qui sont des gens qui font un travail extrêmement ingrat, sans intérêt. Hein. Par exemple, un hypermarché leur envoie des tickets de caisse qui ont été scannés, hein, et leur demande de les ressaisir. Hein. Effectivement, c'est un travail complètement aliénant. Alors, qui été réalisé en partie par des gens dont c'est l'unique travail, et en partie par des gens pour lesquels c'est un travail intermédiaire. Et puis, entre les deux, ces gens qui sont auto-entrepreneurs ou qui créent une toute petite entreprise et qui travaillent sur les plateformes, comme les chauffeurs de VTC, comme des artisanats d'art qui vendent leur activité sur Etsy. Et là se pose un problème du rapport entre ces travailleurs qui sont indépendants, mais dépendants souvent d'une plateforme. Et c'est en fonction de la façon dont cette dépendance va être organisée et régulée, que ce travail sera plus ou moins aliénant.
Comment être sûr que nous n'avons pas affaire à une ultime ruse du capitalisme pour nous faire devenir ce que l'on appelait dans les années 80 auto-entrepreneur de soi-même et qui était considéré quand même comme un monde peu enthousiasmant, au contraire, une façon de soi-même s'auto-contraindre pour rentrer dans un système tel qu'on nous le demande, donc une aliénation renforcée parce qu'inconsciente.
Alors, auto-entrepreneur de soi-même, en même temps, cette idée d'être l'entrepreneur de soi-même est une idée effectivement extrêmement largement répandue et qui, pour certains de ces travailleurs, je l'évoquais tout à l'heure, est extrêmement séduisante.
Oui, c'était pas l'avis de Foucault, c'est pour ça.
Bon, tout à fait. Alors, je dirais... Je pense qu'une des difficultés de cette réflexion sur le numérique, c'est qu'on ne peut pas traiter l'ensemble des activités de travail de la même façon. Et que, je veux dire, on peut, si on considère que le numérique, c'est les travailleurs du clic, on est dans l'aliénation totale. Des conditions de travail épouvantables. Ces gens, par exemple, peuvent mettre leur réveil à 3h du matin parce qu'ils espèrent qu'à 3h du matin, il y aura une proposition de travail qu'ils vont être amenés à prendre. Souvent, ils mangent un sandwich devant leur ordinateur. Le travail numérique, c'est ça, et c'est très important de le prendre en compte. Mais c'est aussi le développeur qui travaille avec une continuité totale entre ce qu'il va faire en le logiciel open source qu'il va faire pour lui, ce qu'il va faire pour un employeur. Donc je veux dire, il y a l'ensemble de ces activités et c'est important de les segmenter.
Mais vous êtes, Patrice Flichy, professeur émérite à l'Université de Marne-la-Vallée. Cette révolution numérique, ou tout au moins cette nouvelle ère, vous la regardez comment? Avec une certaine fascination, avec optimisme aussi, le sentiment que ça peut vraiment provoquer quelque chose et nous aider à repenser notre rapport au travail, ou vous avez quand même une certaine inquiétude sur ce qui est en train de se passer et qu'on ne perçoit peut-être pas directement?
Alors, je pense qu'il y a effectivement toute une série d'opportunités dont les travailleurs peuvent se saisir, mais il y a toute une série de phénomènes qui peuvent être très inquiétants et sur lesquels il est important, effectivement, d'une part qu'il y ait des régulations qui se mettent en place, d'autre part que les travailleurs puissent collectivement se battre pour obtenir des situations de travail meilleures. Je pense que le fait que les travailleurs indépendants puissent maintenant se syndiquer me paraît être un phénomène très, très important. Alors, au titre de ces absences de régulation, ou une modification de la régulation, on peut prendre un exemple qui je crois intéressant, qui est que ces plateformes contournent un certain nombre de professions. On peut prendre l'exemple des gens qui vous invitent, qui vous proposent de venir dîner chez eux. On sait que la restauration est un système extrêmement régulé par toute une série de règles d'hygiène.
Pour vous inviter en tant que pour faire le repas, c'est ça.
Vous invitez pour consommer le repas c'est que ça. Vous avez préparé.
C'est ça.
Donc c'est un petit peu comme le Airbnb de la nourriture. Et donc se pose la question de les restaurateurs disent mais finalement aucune des règles sanitaires n'est appliquée. Et ces plateformes disent, ben non, nous, on va mettre en place une assurance, une assurance qui fait que si les invités cassent la vaisselle, eh bien la vaisselle sera financée. Et si le restaurateur amateur empoisonne ses invités, eh bien l'assurance financera leurs frais de santé. Donc vous voyez, derrière ce tout petit exemple se pose une question tout à fait essentielle. Est-ce que un certain nombre de nos régulations publiques vont être transformées par des systèmes d'assurance privée, hein? Autre chose que posent ces plateformes, qui est intéressant, c'est que depuis la guerre, tout commerçant ne peut pas refuser un client. Parce qu'il est noir ou parce que sa tête ne vous plaît pas. Hein. Eh bien, aujourd'hui, sur une plateforme, vous choisissez vos clients. Si vous proposez votre chambre sur Airbnb, vous pouvez refuser des gens qui ne vous plaisent pas. Hein. Donc, vous voyez, c'est effectivement toute une mutation. Hein, qui nécessite effectivement un débat public.
Et des régulateurs.
Et
un nouveau compromis social.
Absolument.
Parce que tout le monde fait tout dans votre système. Et est-ce que ce n'est pas la disparition du métier aussi, finalement ? La notion de métier.
Alors, je crois que le métier s'est très largement transformé, hein, par rapport au vieux métier d'autrefois. Hein. Il s'est transformé parce que finalement il y a des formations constantes, hein, qui font évoluer les métiers. Alors je crois que effectivement le fait qu'on puisse apprendre, hein, seul, qu'on puisse utiliser des savoir-faire qu'on a acquis à l'extérieur du système de formation interroge profondément le système de formation. Et là, ça pose une autre question, hein, qui est la question de la validation des acquis, hein, cette validation des acquis de l'expérience, la VAE, qui est extrêmement encadrée. Hein, et donc je pense qu'il serait probablement intéressant de l'ouvrir finalement. Si vous êtes un bon chauffeur, est-ce que vous ne pouvez pas transporter des gens, hein, si vous êtes un bon cuisinier, hein, parce que si vous voulez, ça apparaît aussi dans des professions extrêmement pointues, hein. On me parlait l'autre jour, hein, d'un groupe de dentistes qui sont en train, entre eux, hein, d'inventer de nouvelles façons de soigner les dents. Alors, ce sont des dentistes, ce ne sont pas des amateurs.
Oui, qui dentiste se présentent amateur, dentistes, c'est pas, hein, forcément.
Mais malgré tout, vous voyez, au sein de professions, grâce à des communautés internet, eh bien, se mettent en place de nouveaux processus de travail.
Et pour boucler la boucle, libérer le travail plutôt que de tenter de s'en libérer, est-ce que ça passe forcément pour vous, Patrice Flichy, par une redéfinition entière du code du travail? Est-ce qu'il faut aller casser le code pour pouvoir libérer aussi le code du travail en même temps que le travail ?
Bien, ça passe par un renforcement du pouvoir des syndicats, incontestablement, hein. Et ça passe aussi par la mise dans l'agenda public de ce que réclame la CFDT, par exemple, qui est de s'interroger sur la participation des représentants des travailleurs, hein, dans les conseils d'administration. Donc je pense qu'effectivement, pour libérer le travail, il y a beaucoup de choses à transformer. Mais il y a aussi l'organisation interne du travail.
Un travail de réécriture à faire. Merci beaucoup Patrice Flichy, Les nouvelles frontières du travail à l'ère numérique. Votre essai a paru au Seuil tout de suite, comme un jeudi sur deux, le rendez-vous du médiateur des antennes de Radio France.
La grande table. Le rendez-vous du médiateur.
Place donc à notre rendez-vous avec Bruno Denesse et aujourd'hui cette question encore du numérique mais dans la culture avec votre invité Bruno Denesse, bonjour.
Bonjour Olivia Jesbert, bonjour à tous. Alors parler des tendances de l'évolution du monde et de la société, et du numérique également, c'est ce que propose tous les dimanches Soft Power. Mais est-ce de la culture, n'est-ce pas parfois un peu trop spécialisé ? Frédéric Martel, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes le producteur de l'émission et pour certains auditeurs, Soft Power n'est pas digne, entre guillemets, de France Culture. Camille, par exemple, nous écrit « Ce n'est pas de la culture mais de la marchandise ». Vous parlez des studios américains, des opérateurs téléphoniques, bref, de ceux qui brassent des milliards. C'est sûr, ce n'est pas de la culture classique.
France Culture, c'est la radio d'abord de toutes les cultures. Et d'une certaine manière, le marché d'une part, l'art d'autre part, c'est des concepts qui ne fonctionnent plus aujourd'hui. Moi, je me méfie toujours d'une forme de catéchisme culturel qui voudrait définir la culture à la place des gens. Le rock, le jazz, la musique classique, l'industrie du livre, Martha Argerich, Barenboim, ou plus récemment Léonard de Vinci, dont le Salvator Mundi s'est vendu 450 millions de dollars. C'est pas de la culture ? Donc c'est un peu un faux débat. Ce qui est important, c'est d'expliquer, de défendre des points de vue, mais aussi d'écouter toutes les formes de culture.
Alors, vous avez évoqué dimanche dernier le Black Friday, et là, pour plusieurs auditeurs, vous étiez vraiment dans le commercial. Pour Christine, pourquoi parler de cette journée de promo commerciale sans recul, sans préciser que tout cela est marketing et que les prix sont souvent de fausses promos? Alors, un manque de recul?
D'abord, ce n'est pas exact. On a parlé brièvement, puisque c'est juste de l'actualité. On n'a pas fait une émission dessus. On a parlé effectivement de Black Friday, qui a un lien avec le numérique, puisque c'est Amazon qui l'a implanté en France, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. Et surtout, justement, on avait 4 chroniqueurs et invités, et ils ont tous réagi. Et 3 sur 4 ont été critiques. Ils ont dénoncé des promotions abusives, des abus de position dominante. Et c'était paradoxalement une séquence très critique à l'égard de Black Friday. Donc, ce n'est pas exact de dire que c'était sans recul. Maintenant, le point important, et là je rejoins absolument ce que dit l'auditrice, c'est qu'il faut qu'on soit toujours attentif aux consommateurs, et notamment aux droits des consommateurs. Et on est une des rares émissions de France Culture qui constamment dénonce les arnaques, par exemple des opérateurs de téléphonie mobile, des sociétés qui appellent les personnes âgées, qui leur font signer des contrats, qui profitent, les abus de position dominante. On a critiqué énormément Apple Music, je cite la marque, mais pourquoi? Parce que quand vous avez un ordinateur Apple, on vous impose Apple Music. Et là, c'est de l'abus de position dominante contre d'autres sociétés de type Deezer, Spotify, qui sont européennes. Et ça, on fait ça constamment. Et l'auditrice a raison de nous rappeler qu'il faut défendre constamment les consommateurs.
Alors le numérique, il faut aussi être honnête, c'est quand même une très vaste ouverture à la culture. Et là, on est loin de la culture des élites.
Oui et non. Le numérique, c'est à la fois la culture des élites. Shakespeare est omniprésent sur Internet, de même que la musique classique, de même que le jazz. Et en même temps, c'est aussi effectivement un endroit où les industries du disque, Broadway, le cinéma, parfois très grand public, sont également présents.
C'est un mélange en quelque sorte. De toute façon.
Oui, alors moi je ne défends pas le mélange des genres. Mais par contre, je défends l'idée qu'il faut traiter sérieusement les cultures populaires. Et c'est au fond l'axe principal de Soft Power.
Alors par ailleurs, plusieurs auditeurs estiment que vous restez dans votre monde avec des mots et des expressions certainement branchés, très parisiens, qu'on ne comprend pas toujours. Pour Isabelle, par exemple, vous employez le mot écosystème à toutes les sauces et des mots anglais que je ne comprends pas, comme branding. Alors j'avoue que moi aussi, je suis allé chercher la signification de ce mot que vous avez utilisé dimanche dernier notamment. Alors est-ce que vous n'avez pas la crainte finalement de rester dans votre écosystème ?
Bien, tout l'enjeu des missions de ce type, c'est constamment d'essayer d'expliquer, d'essayer de traduire. Et moi, je suis un des producteurs qui constamment reprend des chroniqueurs, des invités, lorsque, par exemple, ils emploient à tout bout de champ storytelling, qui est un mot que je déteste parce qu'en plus, son sens n'est pas compris souvent en France. Quand ils disent computer, eh bien, on dit ordinateur. Quand ils disent broadband, on rappelle que c'est le haut débit, etc. En même temps, je ne suis pas non plus pour que tous les mots soient obligatoirement francisés quand ils n'ont pas de sens. Si, par exemple, j'employais le mot ordiphone, la plupart des gens comprendraient pas que ça signifie un smartphone. De même, encre de poudre, ce que l'on nous demande de dire, en fait, c'est le tonnerre. Donc, il faut, et Alain Rey le dit très bien, le patron des dictionnaires Robert, il dit qu'il faut s'adapter aux usages. Et c'est l'usage qui primera. Je rappelle au passage que la langue française est aussi une langue qui accueille les langues étrangères. Hein, sans revenir à Rimbaud, qui citait Bottom et Beautus, comme vous le savez, deux des plus célèbres poèmes des Illuminations. Donc, voilà, ouvrons-nous, traduisons, expliquons constamment ce qu'on essaie de faire. Un autre mot, juste un détail. J'ai lu un petit livre du Figaro qui a été édité contre les anglicismes et qui critiquait tout un tas d'emplois des anglicismes par les journalistes et par les Français. Sauf que le Figaro lui-même a 3 chroniques. Une s'appelle le Talk Media, l'autre le Buzz, l'autre le Lab et le Live. Donc vous voyez, on est tous dans des formes un peu de schizophrénie, de contradiction dans notre emploi, dans notre amourenne de l'anglais et on essaye chacun de trouver un peu les solutions. Et c'est une des cases. C'est 1h30 par semaine, donc ce n'est pas tout France Culture qui s'intéresse à ces cultures-là.
Bien, merci beaucoup Frédéric Martel. On vous retrouve donc dimanche à 19h pour Soft Power. Alors de quoi vous avez parlé d'ailleurs dimanche prochain ?
On s'intéressera toujours à l'influence au fond de la culture, à la fois française à l'étranger et culture étrangère en France. Et on va se concentrer en particulier sur le numérique français.
Et pas sur le digital ?
Les agences de gouvernement françaises, vous voyez, comme ça on mêle à la fois la France et le numérique.
Merci beaucoup Bruno Denès. On peut bien sûr vous écrire, vous, cher médiateur de Radio France, sur votre site. Chaque jour, quand une grande table se referme, elle se rouvre immédiatement sur franceculture.fr. Vous pouvez vous abonner au podcast de l'émission, à la programmation, préparation, aujourd'hui encore Claire Maillot et Coppelia Ménardi, Clémence Marie et Henri Leblanc, avec l'aide précieuse de Bertie Bourdon et de Maxime Morin. À la réalisation Perré Legras avec Alex Dang. On est jeudi, je vous dis donc à demain et d'ici là, très bel après-midi.